Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur le thème « S'encourager à la sainteté ». Et pour cela, je veux lire avec vous un texte dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les cinq premiers versets. Épître aux Galates, chapitre 6, les cinq premiers versets. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, on pourrait aussi traduire « si quelqu'un vient à être surpris en faute », vous qui vivez selon l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, celui-là s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même, et s'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, mais non par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Jusque-là, Seigneur, que ta parole soit agissante maintenant au milieu de nous. Amen. J'ai eu l'occasion au cours de ces dernières semaines d'entrer dans une série où nous avons parlé du péché, de la grâce, de la sanctification, de l'appartenance à l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment nous pouvons nous encourager à progresser dans la sainteté. L'apôtre Paul, vous le savez, avait de nombreux collaborateurs dans le ministère. Il travaillait avec des gens comme Marc, Luc, Aristarque, Démas. Pour ce dernier, qui travaillait avec l'apôtre Paul depuis plusieurs années, un jour, le ministère lui est devenu trop pénible et il a abandonné. Malheureusement, en quittant le ministère, il a quitté aussi la foi. Il est retourné dans le monde sans Dieu, à la recherche d'une vie plus facile, plus confortable sans doute sur le plan matériel. Et très sobrement, mais avec beaucoup de tristesse, Paul écrit à propos de Démas, « Démas m'a abandonné » par amour pour le monde présent. Il semble que Paul n'a rien réussi à faire. Ce collaborateur est parti, simplement. Pourtant, 12 ans plus tôt, Paul écrivait à ceci aux églises de Galatie. Il leur disait, mais aidez-vous dans la difficulté, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Je ne peux pas imaginer que Paul n'ait pas été cohérent avec lui-même. Il a certainement cherché à aider ce Démas. En tout cas, il a voulu l'accompagner tant qu'il le pouvait, pour autant que Démas ait montré quelques signes de faiblesse au niveau spirituel. Peut-être qu'il a soigneusement caché tout ce qu'il vivait. Et qu'un jour, tout a éclaté. Brusquement, il s'en est allé, il est parti. Dans ces cas-là, l'Église ne peut rien faire. Paul n'a rien pu faire. Et ce Démas devra répondre de son action, de ce qu'il a fait devant le Seigneur. Il est sorti de la sphère de responsabilité de l'Église par lui-même et il est responsable de son choix. Autre situation pour vous montrer différents contextes, autre situation, autre enjeu, dans le Nouveau Testament, dans une jeune église qui vient d'être fondée dans la ville grecque de Corinthe, nous trouvons un homme qui vit avec sa belle-mère, c'est-à-dire la deuxième femme de son père. Et non seulement la loi de Dieu interdit ce genre de contact, enfin ce genre de relation, mais même la loi civile condamnait cette pratique. Et pourtant, dans cette église de Corinthe, personne ne dit rien. Au contraire, certains se vantent même d'être dans une église qui est ouverte, qui est tolérante, où l'on peut accepter chacun tel qu'il est. Et Paul doit réagir très vivement, très vigoureusement, en dénonçant cette situation d'immoralité, parce qu'il dit « mais même les païens ne font pas cela, et vous vous permettez de tolérer cela en votre sein ». Tout le monde parle de cette situation scandaleuse, même chez les païens. Et cela nuit gravement au témoignage de l'Évangile. Il est temps d'intervenir, il est temps de faire cesser cette situation. En fait, ce que Paul nous montre en dénonçant cette situation scandaleuse, c'est que quand on laisse agir dans l'Église quelqu'un dont le comportement est immoral, dont les actes ne correspondent plus du tout à sa confession de foi, quand il s'est fait baptiser, cet homme a dit vouloir suivre Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, eh bien là, en vivant exactement le contraire de ce qu'il a confessé, il nuit gravement à la réputation de l'Église et il discrédite l'Évangile en fait. Alors, bien sûr, une Église est là pour accueillir tout le monde avec ses faiblesses. Et nous avons tous des faiblesses. Mais l'Église est là pour accueillir des gens qui, dans leur faiblesse, cherchent malgré tout à vivre de manière intègre, fidèle au Seigneur. Et quand on est face à quelqu'un qui ouvertement choisit de vivre dans une situation immorale, scandaleuse, et qu'en plus il entraîne avec lui d'autres gens de l'Église qui cherchent à prendre sa défense, qui cherchent à tolérer cette situation, cela devient une réelle menace pour l'Église. Peut-être que cet homme avait beaucoup d'empathie, peut-être qu'il avait beaucoup un pouvoir de séduction, peut-être qu'il avait une autorité dans l'Église. En tout cas, il est en mesure de nuire gravement à l'Église. L'Église ne peut plus le considérer comme un frère dans la foi s'il persévère dans son attitude, s'il refuse de se repentir. Et c'est pour ça que Paul, à cette jeune Église, écrit « Vous devriez être affligés de cette situation. Vous devriez faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. » Parce qu'un tel homme, s'il refuse de se repentir, s'il choisit de vivre ouvertement dans le péché, ne peut plus être considéré comme un frère dans la foi. Il a besoin de repentance. Il a besoin de changer de vie pour pouvoir être sauvé. Et Paul demande à ce que cet homme soit excommunié, c'est-à-dire exclu de la communion fraternelle qui prévaut dans l'Église entre les disciples de Jésus-Christ. On ne peut plus le considérer comme un chrétien. Il est devenu quelqu'un à qui on doit annoncer l'Évangile, l'Évangile qui passe par la repentance pour parvenir au salut. Vous pourrez lire ce récit dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Avec ces deux situations que je vous ai présentées, Démas et puis cet homme qui vit dans l'immoralité, j'aimerais poser la question, quel est le rôle de l'Église pour m'aider à marcher dans la sainteté? Comment l'Église doit-elle agir? Quand quelqu'un devient membre de l'Église, l'Église lui dit en quelque sorte, « Écoute, tu as professé ta foi par le baptême, nous t'avons baptisé. Et en te baptisant, nous avons reconnu en quelque sorte que ton statut de disciple de Jésus-Christ, nous validons le fait que tu es un disciple de Jésus-Christ. Désormais, tu vas grandir sous la responsabilité de tes frères et sœurs dans la foi. Et l'Église est là pour t'encourager, pour t'aider, pour te soutenir, mais aussi pour t'avertir, pour te reprendre si un jour tu t'éloignes sans même peut-être t'en rendre compte. Et l'Église est là pour t'encourager à revenir au Seigneur quand tu prends un chemin de traverse. Et toi-même, même jeune converti, tu es responsable dans cette Église de soutenir les autres, d'aider, d'encourager. Et même toi, tu peux constater que tel frère peut-être aurait besoin d'un encouragement à revenir dans le chemin du Seigneur et tu peux t'approcher de lui pour le dire avec douceur. Il y a donc une soumission mutuelle les uns aux autres au sein de la communauté des croyants. Personne ne peut se prévaloir ou ne devrait se prévaloir d'un esprit de supériorité dans l'Église. Nous avons tous des faiblesses et des points faibles et nous voulons tous ensemble marcher dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. quand quelqu'un est en difficulté dans sa marche avec le Seigneur, si nous le prenons de haut et que nous lui faisons des remontrances pour lui dire « là, tu agis mal », de manière à le culpabiliser et à, finalement peut-être même à le décourager dans sa foi, nous nous plaçons dans une situation de quelqu'un qui risque lui-même un jour de tomber parce qu'il n'est pas conscient de ses propres faiblesses. Nous ne sommes pas, personne n'est une personne d'exception. Nous avons tous besoin de marcher dans l'humilité avec le Seigneur. Si je lis le Nouveau Testament, je constate que des apôtres comme Pierre, comme Paul, dans leurs lettres, appellent les croyants à se soumettre les uns aux autres. Bien sûr, cette soumission, elle est d'abord la soumission à la parole de Dieu. Elle est la soumission à Jésus-Christ. Mais en plus de cette soumission les uns aux autres, sous le regard du Christ, j'observe aussi que le Seigneur a institué dans l'Église des autorités, des personnes qui sont responsables et qui ont pour mission aussi de garder l'Église dans la foi véritable, qui ont pour mission de proclamer l'Évangile de la vérité et qui ont pour mission d'enlever de l'Église toute souillure, tout ce qui pourrait ternir son témoignage, tout ce qui pourrait l'empêcher d'être l'Église véritable. Mais concrètement, comment nous soumettre les uns aux autres? Comment aller à la rencontre de quelqu'un qui vit dans une faiblesse? La première chose à dire, à partir du texte aussi que nous avons lu, c'est que cela nécessite beaucoup d'amour et de douceur. Si je vois quelqu'un qui agit mal, qui n'agit pas comme un vrai disciple de Jésus-Christ devrait se comporter, je me dois d'aller vers lui et de lui faire remarquer gentiment, sans chercher à le vexer, sans le prendre de haut, que là, il a un comportement qui n'est pas conforme, en fait, à celui que devrait avoir un vrai disciple de Jésus-Christ. Si je m'approche d'un frère ou d'une sœur pour lui faire une remarque, c'est toujours dans le but de l'aider, jamais dans le but de lui nuire. C'est toujours dans le but de le ramener auprès du Christ et non dans le but de le condamner. C'est aussi quelque chose qui se fera toujours de manière privée, confidentielle, sans le crier sur les toits, sans répandre des bruits de couloir pour que tout le monde le sache. Maintenant, si le croyant ne veut rien entendre, s'il se bouche les oreilles, s'il s'entête, s'il persévère dans son injustice, il peut y arriver un moment où l'Église doit reconnaître que ce croyant se comporte comme un incroyant, puisqu'il refuse d'entendre qu'il a besoin de se repentir. Il peut y arriver un moment où ce que dit cette personne qui pêche entre tellement en contradiction avec sa confession de foi lorsqu'il disait que Jésus était son Seigneur, que cela pose question. A-t-il réellement rencontré Jésus comme un Seigneur de sa vie? Il peut arriver un moment où l'Église doit dire à cette personne « Tu ne te comportes plus en disciple de Jésus-Christ et nous ne pouvons plus reconnaître dans ta manière d'être que tu es un disciple de Jésus-Christ. » Et comme nous ne pouvons plus reconnaître cela, nous te demandons de ne plus participer à la scène, puisque la scène, c'est le lieu de la communion avec les frères et les sœurs. Et cette communion, nous l'avons perdue avec toi, puisque tu ne manifestes plus les caractères d'un vrai disciple. Le but n'est jamais la sanction. Le but est d'amener ce frère ou cette sœur à réfléchir à ses actes, pour qu'il se rende compte que la communion fraternelle n'est pas quelque chose de factice. Il ne peut pas dire qu'il est en communion fraternelle si dans sa vie, tout montre le contraire. Donc en refusant l'accès à la scène à quelqu'un, en l'invitant à ne plus prendre la scène, l'Église aide en fait ce frère ou cette sœur à réaliser la gravité de son péché, alors que jusque-là, il nie cette gravité. Le but étant qu'il revienne au Seigneur, qu'il se repente et qu'il marche à nouveau avec le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Église, parce que l'Église, elle est là pour nous aider, pour nous encourager dans notre vie chrétienne. On ne peut pas vivre seul. L'Église, elle est là pour avertir, pour prévenir, pour chercher à sauver celui qui est en train de se perdre. Mais il est vrai que quand nous nous approchons de quelqu'un pour lui dire « Écoute, là, tu te trompes, tu t'égares. Par ton comportement, tu t'éloignes du Seigneur. » Dire cela à quelqu'un est toujours un moment délicat. Ça peut être un moment difficile. Et pourtant, je crois que si on le fait avec humilité, si on le fait avec amour, avec douceur, c'est un vrai moyen de bénédiction. Ce n'est pas le jugement de quelqu'un qui vient m'écraser, c'est un frère ou une sœur qui m'aime, qui vient me rendre attentif à la qualité de ma relation avec Dieu et qui m'encourage à continuer de servir le Seigneur. L'objectif, encore une fois, c'est toujours d'aider, pas de dénoncer. Le but, c'est de ramener quelqu'un au Seigneur. Concrètement, comment est-ce que cela se passe? Comment faire? J'ai déjà donné quelques pistes. Mais je dirais peut-être que, bien souvent, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Simplement de prier pour cette situation et de demander à Dieu, « Seigneur, tu vois là, il y a quelque chose qui ne va pas, parle à ce frère, parle à cette sœur, amène-le de nouveau près de toi. » Et si on choisit de dire quand même quelque chose, la première chose à faire, c'est de chercher à comprendre la situation. Il faudra peut-être pour cela poser des questions, établir des faits. Il faudra aussi accorder le bénéfice du doute, parce que celui que l'on croit coupable n'est peut-être pas aussi coupable qu'on le croit. Peut-être que notre jugement est faussé, peut-être nous manque-t-il des informations, peut-être que les reproches qui sont faits sont inexacts. Et je crois que nous devons rester humbles. J'ai constaté assez souvent dans mon ministère quand même que des reproches pouvaient être adressés à quelqu'un sans qu'il y ait de fondement. Parfois avec des motivations qui pouvaient être malsaines. J'ai pu constater aussi que parfois des chrétiens pouvaient reprocher des choses à d'autres avec un manque d'amour notoire, en faisant beaucoup de mal, en étant plus destructeur que constructeur. Moi, je me demande comment nous pouvons agir au mieux. Et parfois, le mieux, c'est de ne pas forcément agir si nous ne sommes pas capables d'agir avec amour, humilité, et puis avec beaucoup de douceur et de tendresse. Dans ce que nous avons lu de l'Épître aux Galates, Paul évoque la situation de quelqu'un. Ce n'est pas très clair puisqu'on peut le traduire de deux manières. Soit quelqu'un qui se rend compte qu'il a commis une faute, peut-être le Saint-Esprit le lui a montré subitement, soit quelqu'un qu'on a surpris en train de commettre une faute. Peu importe, dans les deux cas, cette personne a commis une faute et elle a besoin d'encouragement. Elle a besoin qu'on l'aide à revenir à Christ. Qui peut aider cette personne? Paul nous dit que ce n'est pas n'importe qui, que ce n'est pas n'importe quel croyant. Tous les croyants ont reçu l'Esprit, mais tous les croyants ne marchent pas forcément avec l'Esprit ou ne sont pas forcément remplis de l'Esprit de Dieu. Paul nous dit que même si on doit se soumettre les uns aux autres dans l'Église, ce n'est pas à n'importe quel prix. Celui qui veut reprendre un frère ou une sœur doit le faire en étant conduit par l'Esprit de Dieu et en marchant avec l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il soit conduit par l'Esprit de Dieu. C'est seulement à cette condition qu'il pourra manifester de la patience, de la douceur, de la bonté. Si sa motivation est autre, si ce qui le pousse à aller rencontrer le frère, c'est une volonté de faire justice par lui-même, une volonté de régler des comptes, jamais ça ne pourra être constructif. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire. Mais si je suis capable d'aller voir quelqu'un en lui disant, mais tu vois, là tu as pu blesser une sœur avec ton attitude, parce qu'il y a eu une certaine arrogance et on peut mentionner les faits, on peut dire ce que l'on a vu, on peut dire ce que l'on a entendu, on peut vérifier d'abord, on peut s'enquérir et la personne en face peut reconnaître ce qu'elle a fait. Et à ce moment-là, on peut lui dire, mais tu devrais aller la trouver peut-être pour présenter tes excuses et demander pardon aussi au Seigneur. Si on apprend dans une église à cultiver ce type de relation, si ça devient quelque chose de naturel et que l'on se rend compte que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont dire les choses aux autres, mais que ça va dans tous les sens et que chacun peut recevoir une parole d'un frère ou d'une sœur, ça deviendra quelque chose de positif qui va aider, qui va nous aider à marcher avec le Seigneur. On est dans une société tellement individualiste qu'aujourd'hui on peine beaucoup à ce que quelqu'un ait un droit de regard sur notre vie. Bien sûr, un droit inquisiteur qui irait fouiller dans la vie des autres n'est pas ce que Paul recommande dans ce texte. Mais un regard de bienveillance face à des choses qui ont pu être constatées objectivement et qui méritent finalement une parole pour ramener ce frère ou cette sœur à la foi, ça doit être fait dans l'Église. Chaque situation dans l'Église est particulière et la Bible n'évoque pas tous les cas qui peuvent se présenter. Mais il y a quelque part une limite qui existe entre les attitudes, les habitudes pécheresses qui ne sont pas le fruit d'une intention délibérée, qui ne sont pas l'envie de fuir les commandements du Seigneur. Et puis, un comportement ou une attitude qui témoigne d'un réel endurcissement de la personne, d'une absence de volonté de revenir à ce que la personne sait être juste devant Dieu. Cette limite, elle est difficile à établir, mais quand on constate qu'il y a un endurcissement, il arrive à un moment donné où l'Église se rend compte que ce pécheur n'a pas vraiment compris le véritable message du salut. Ce pécheur ou ce coupable peut-être même prétend vouloir s'excuser, du bout des lèvres dit un vague « excuse-moi ». Mais rien ne semble crédible chez lui. L'Église peut légitimement avoir du mal à croire quelqu'un. Et dans ce cas, quand il n'y a plus aucune confiance, que l'on ne croit plus que la personne est sincère dans ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, l'Église a pour mission de retirer à cette personne, cette validation publique qu'elle lui avait donnée d'être le représentant de Christ sur la terre. Elle va lui demander de redonner sa carte d'ambassadeur du royaume de Dieu. Il ne pourra plus justifier être un citoyen des cieux. Il sera quelqu'un qui doit rentrer à nouveau dans le royaume par un acte de repentance. Ce genre de situation peut se produire quand quelqu'un n'a pas seulement dit un mensonge, par exemple, mais qu'il a construit toute sa vie sur ce mensonge et qu'il refuse d'y renoncer. Là, il y a un endurcissement avéré. Nous ne sommes pas là pour juger le cœur de chacun des croyants. Ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église n'a pas exercé la discipline pour des situations qui ne sont pas objectivables. Dans ces cas-là, il suffit de continuer de prêcher l'Évangile et puis de laisser l'Esprit-Saint agir. Mais la discipline de l'Église, elle est nécessaire quand il y a un péché qu'on pourrait qualifier de grave, de manifeste, et où la personne ne se repent pas. Mais l'Église n'a pas besoin de se mettre à chaque fois dans tous ses états quand une personne pourrait être soupçonnée de jalousie, d'orgueil, d'avarice. Là, il s'agit de prêcher l'Évangile plutôt. Et là, intervenir l'Église quand le péché a été manifeste, qu'il s'est vu, qu'il s'est entendu, qu'il est grave, et que la personne refuse de se repentir. Dans les autres cas, la parole de Dieu nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et donc, il n'est pas nécessaire d'intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on constate. Et d'ailleurs, heureusement que Dieu n'intervient pas chaque fois pour nous discipliner quand nous avons désobéi. Il prêche sa parole et il nous encourage à marcher dans un chemin de sainteté. Donc pour que l'Église intervienne, il faut vraiment qu'il y ait ces cas graves, manifestes, objectivables et un refus de repentance. Dans les cas où la personne présente des excuses, prétend s'être repentie, mais où l'Église se demande si vraiment il y a eu une repentance sincère, il faut parfois se donner du temps avant de réhabiliter la personne. Je pense à des cas d'abus spirituels, d'abus sexuels, d'abus de tout genre. Je pense à des situations intolérables comme des viols. Je pense à des cas de sévices à répétition. Peut-être qu'il conviendra de demander à celui qui manifeste de la repentance d'abord de suivre une thérapie et de laisser du temps s'écouler pour qu'on puisse voir le fruit de la repentance chez cette personne avant qu'on puisse vraiment la réhabiliter complètement. Ce n'est pas que ces péchés-là ne peuvent pas être pardonnés. Dieu pardonne tous les péchés. Mais parfois, l'Église a besoin de plus que juste de petites excuses que l'on balbutie comme cela. Elle a besoin de voir qu'il y a eu un vrai changement, et pour établir ce vrai changement, il faut parfois du temps qui s'écoule. Par contre, dès que le changement est avéré, le pardon peut être donné, et sans aucun délai, la réhabilitation peut être accordée à cette personne. Quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas à moitié. Son pardon, il est plein, il est entier. Et nous sommes-nous appelés à faire de même, à suivre l'exemple de Dieu. Mais pardonner ne veut pas forcément dire manquer de prudence. Admettons que quelqu'un soit trésorier de l'Église ou comptable, ou qu'il compte la collecte et qu'il détourne de l'argent à son propre profit. Autant nous pouvons lui pardonner s'il reconnaît sa faute, autant il ne serait peut-être pas prudent de lui confier la gestion de la caisse pour la suite, immédiatement. On ne va pas le mettre dans une situation de tentation de manière inutile. Donc dans chaque situation, il convient de faire preuve de sagesse. Il faut s'adapter. C'est ce que Paul écrit aux Thessaloniciens. Je vous lis ceci, aux Thessaloniciens chapitre 5, 14 à 15. « Avertissez » vous verrez les différentes situations qui se présentent, « avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. » Un faible, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de lutter contre un péché ou contre une dépendance, quelqu'un qui a besoin de temps pour vraiment suivre le Seigneur. « Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. » Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. J'arrive à une dernière question par rapport à ces situations qui se présentent dans l'Église. Si quelqu'un a fait le choix de vivre d'une manière délibérément hostile au Seigneur, qu'il a été averti par l'Église, qu'on lui a demandé de ne plus prendre la scène parce que son attitude manifestement ne témoigne pas de celle d'un vrai disciple de Jésus-Christ, comment dois-je me comporter avec lui? Je crois qu'il est important que dans ces situations-là, nous ne fassions pas comme s'il n'y avait rien. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus en lien avec celui qui aurait été placé sous la discipline de l'Église. Mais la personne doit quand même, d'une manière ou d'une autre, savoir qu'elle agit en dehors de l'autorité du Seigneur Jésus. Et je devrais, d'une manière ou d'une autre, pouvoir amener cette personne à réfléchir à ce qu'elle fait. Et donc, si je garde une relation tout à fait normale avec elle, elle ne saura pas qu'il y a quelque chose de grave dans son lien avec le Seigneur. Ce que le Seigneur m'appelle à faire, c'est avec beaucoup de douceur chercher à amener cette personne à la repentance. Par contre, si cette personne est un membre de ma famille, Il ne faut pas que je cesse de m'acquitter de mes obligations familiales. Je me souviens d'une famille où le fils a choisi de faire un mariage que les parents estimaient pas juste devant le Seigneur. C'était un mariage interconfessionnel. Les parents n'agréaient pas ce mariage-là. Et pour manifester leur désaccord, ils ont refusé d'aller au mariage. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne attitude. En tant que parents, nous avons à jouer notre rôle de parents avec nos enfants. Par contre, en tant que croyants dans la communauté du Seigneur Jésus, nous avons à jouer le rôle de croyants, c'est-à-dire d'avertir, de prévenir ceux qui s'éloignent du Seigneur. Tout cela, pour un seul but, c'est d'avoir la joie de voir un pécheur qui se repent. Et quand un pécheur se repent, c'est la joie dans le ciel. Parce que Dieu pardonne, Dieu restaure. Et l'Église est invitée à réhabiliter le pécheur qui se repent. Il y a des cas qui sont très clairs. Par exemple, un homme qui aurait quitté sa femme et qui se rend compte qu'il a mal agi, qui se repent et qui revient dans son foyer. Celui-là témoigne d'une repentance claire, manifeste, et pourra être réhabilité. Parfois, le changement est moins facile à constater. Par exemple, quand une dépendance s'est installée et que la personne lutte pour sortir de sa dépendance, il faudra peut-être avoir beaucoup de sagesse, de patience. Mais quand un chrétien revient à Dieu après s'être éloigné, il faut qu'il puisse être restauré. Il n'y a pas de chrétien de seconde zone. S'il était mis à l'écart publiquement, à un moment donné, parce que l'Église a pris connaissance de sa situation dans une réunion d'Église, par exemple, il convient aussi de le réhabiliter publiquement pour qu'il puisse réintégrer la communauté pleinement, entièrement. Et un peu comme le Père qui accueille le Fils prodigue, que l'Église soit dans la joie parce qu'un pécheur s'est repenti. J'arrive à la conclusion. Dans mon ministère, je me suis retrouvé plusieurs fois confronté à des situations où j'ai eu à prévenir une personne qu'elle faisait un mauvais choix. Ça s'est produit assez souvent dans le domaine des choix affectifs, des choix amoureux. La Bible nous enseigne clairement, par exemple, qu'un croyant devrait choisir un conjoint croyant qui partage la même foi au Dieu vivant. La Bible enseigne aussi que quand deux êtres envisagent le mariage, ils devraient attendre le jour de ce mariage pour vivre ce fabuleux, formidable cadeau de la sexualité. C'est là deux domaines qui sont très sensibles, surtout dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement érotisé. Et puis où le choix amoureux est devenu un choix totalement individuel, où l'on ne veut pas que quiconque vienne s'y mêler. Donc c'est difficile d'aller parler de ces thèmes-là. Quand cela m'arrive, et ça m'est arrivé tout au long de mon ministère, j'essaie d'abord de présenter le projet du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas là comme un Dieu d'interdiction pour dire « ce n'est pas bien ». Dieu a d'abord un magnifique projet de vie pour chacun d'entre nous. Et quand un jeune fait un choix qui peut être questionné, je l'invite d'abord à entendre le formidable projet du Seigneur. Et je constate que ce projet n'est pas toujours bien connu. Donc comment, si la personne ne connaît pas le projet du Seigneur, pourrait-elle suivre ce projet ? Ensuite, si confrontée au projet du Seigneur, cette personne constate qu'il y a un décalage, mon but c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, autant que possible en tout cas, d'essayer de l'amener à remettre ses choix en question au regard de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai à dire quelque chose, c'est Dieu. Si la personne dit « Jésus est mon Seigneur », en quoi est-il le Seigneur de sa vie ? Dans le domaine du choix amoureux ou de la sexualité. » Dans ces domaines-là, c'est souvent douloureux. J'ai vu souvent des personnes pleurer. Au début de mon ministère, j'ai rencontré un jour une fille qui n'avait pas cet arrière-plan, qui ne connaissait pas le projet du Seigneur. En le lui expliquant, elle a très bien compris ce que le Seigneur attendait. Malheureusement, c'était trop dur pour elle de suivre ce projet-là et elle a fait le choix de mettre sa relation au-dessus de sa relation avec le Seigneur. Et j'ai eu le regret de la voir partir de l'Église parce qu'elle n'a pas réussi à mettre le Seigneur au premier plan. Mais beaucoup de fois, j'ai aussi eu le privilège de voir des personnes qui sont passées par de vraies repentances, par de vrais changements. Et j'ai vu les larmes de la repentance. Et j'ai vu combien c'était doux aussi, après, de voir que le Seigneur bénissait ceux qui auraient pu mettre le Seigneur au premier rang. Paul nous invite à porter nos fardeaux les uns les autres. Il nous invite à marcher selon les commandements du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cher que Jésus dans notre vie? Moi, je vous invite à accepter les encouragements des frères et des sœurs. Acceptons ensemble de porter nos fardeaux mutuellement. Prenons le temps de nous écouter. Soyons remplis de l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Quel est le premier fruit de l'Esprit? La sagesse, l'amour. Je crois que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit témoignera de l'amour. Il aimera son prochain. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans tout ce que nous avons abordé ce matin. Aimons-nous les uns les autres. Voilà la loi du Christ. Amen.